Pour fabriquer un PLU patrimonial, il faut évidemment intégrer dans le dossier de PLU les patrimoines identifiés et sélectionnés selon leur intérêt et le projet urbain. Cette intégration peut être réalisée de diverses manières, zonage, règlement, etc., mais aussi souvent dans une liste des éléments patrimoniaux, parfois appelée annexe patrimoine. Celle-ci n'est pas exigée par le Code de l'urbanisme, mais quand elle existe, elle rassemble les fiches par éléments ou parfois simplement les listes de sous-ensembles. Dans cette hypothèse d'annexe patrimoine, plusieurs questions se posent. Où faut-il intégrer ce document et comment doit-on le présenter ? Un travail de mise en forme de l'annexe patrimoine doit être fait. Il ne s'agit pas de basculer purement et simplement des extraits de l'inventaire. La précision des fiches que l'on y trouve fréquemment, issues de l'inventaire de la région ou d'un atlas communal, dépasse les besoins d'un document de planification. Les inventaires peuvent aller jusqu'à décrire les intérieurs, par exemple, qu'un PLU n'a pas le droit de réglementer, ou retracer toute l'histoire d'un bâtiment. Il faut donc filtrer et résumer ces infos afin d'en retenir en particulier ce sur quoi le droit de l'urbanisme a prise. Par exemple, les alignements, les emplacements sur les parcelles, la hauteur, les mots des natures, les ouvertures, les matériaux. Bref, ce qui fait la valeur patrimoniale de l'élément, soit en tant que tel, soit en tant que composante d'un paysage urbain ou rural. De nombreux PLU comportant un volet patrimonial ne vont pas aussi loin. Ils se contentent d'une liste d'édifices ou d'ensembles, par exemple des fronts bâtis, sans fiche descriptive des éléments, ne comportant que leurs adresses rue par rue et éventuellement leur repérage sur un plan de zonage. Cette approche rudimentaire de l'annexe patrimoine est-elle illégale ? Non, évidemment, puisque le Code de l'urbanisme n'impose aucun formalisme en la matière. Cependant, le manque d'informations techniques par élément prive le service instructeur comme le pétitionnaire des repères décisionnels utiles au traitement d'une demande de travaux. Comment savoir quelle modification du bâti demander ou accepter quand on n'en connaît pas les éléments patrimoniaux censés être protégés ? Cette question interroge d'ailleurs un autre aspect de l'annexe patrimoine. Les fiches peuvent-elles ou doivent-elles comporter des prescriptions ? Les fiches patrimoine peuvent édicter des règles, car l'intérêt d'une démarche patrimoniale intégrée au PLU est bien de mettre en place des protections adaptées au patrimoine sélectionné. À quoi bon s'arrêter au milieu du gué et se contenter de ne poser comme règle d'instruction qu'une obligation de travaux en cohérence ou en harmonie avec l'élément concerné ? L'article R111-27 du Code de l'urbanisme peut presque suffire à cela. Les prescriptions par élément peuvent donc être un véritable marqueur d'un PLU patrimonial. En sens inverse, inscrire des recommandations dans ces fiches, ce que font certains PLU, brouille la lisibilité réglementaire de la planification urbaine. Par principe non prescriptive, les recommandations offrent bien une aide à la décision pour le service instructeur, mais sans être juridiquement opposables aux pétitionnaires. In fine, compte également la place de l'annexe dans le dossier de PLU. Est-elle annexée au règlement même ou dans les annexes aux côtés de l'annexe sanitaire ou des servitudes d'utilité publique ? Dans la première hypothèse, annexée au règlement, l'annexe bénéficie de la valeur réglementaire du règlement, alors que la seconde hypothèse prive l'annexe de cette valeur, et ce, même si les fiches comportent formellement des prescriptions. Pas toujours facile de s'y retrouver dans ce petit jeu du droit dur ou du droit mou, mais l'enjeu juridique est de taille, en particulier en cas de contentieux, car cela délimite ou non le potentiel réglementaire d'un PLU se voulant patrimonial.